René Mazeroy, La Vierge à la chaise. Leur mariage ressemblait à un enterrement morne, un enterrement d'oublié que ses amis, distraits et vaillants, accompagnent au cimetière. Joseph Montaigne avait été porté par les laquais dans le vaste salon banal de l'hôtel. Aucune lueur vitale n'éclairait le regard fixe de ses yeux atones. Il reposait, inerte, sur un large meuble d'acajou où s'échappaient par instants des odeurs fétides de malade. Les jambes pendaient, emmaillotées de couvertures épaisses. Une calotte de velours noir recouvrait sa nuque chauve et avivait encore la pâleur d'ivoire de son visage. Et n'eût été le mâchonnement perpétuel des lèvres, le bruit faible de sa respiration, une sorte de tremblement frileux qui agitait ses doigts amaigris, on aurait pris le millionnaire démoli par la vie parisienne pour une momie déjà mangée des vers. Assise à côté de lui, Mademoiselle Elvine Gaspard attendait, impatiente, la fin de cette cérémonie, à la fois comique et funèbre. Elle portait une tenue très simple, une robe de moire qui tombait à plis droits, comme celle des Immaculées, qu'on nimbe de cierges et de couronnes florales. Tandis que d'un air distrait, le maire de l'arrondissement lisait les articles du code, derrière eux, les témoins chuchotaient discrètement, faisaient tout bas des réflexions drôles, que suivait un pouffement de rire étouffé. Et l'artiste avait hâte de jeter tout ce monde gouailleur à la porte, d'imposer ses volontés à la valetaille, de prendre légalement la possession de ses millions, de son logis, de ce malade auquel une chiquenaude d'enfant donnerait le coup de grâce. Quand il fallut reprendre la formule sacramentelle, Joseph Montaigne parut se réveiller de sa somnolence morbide. Il chercha à tâtons la main froide d'Elvire. Il la regarda inquiétement, comme s'il doutait qu'elle fût là, près de lui, et se raidissant de la salive aux lèvres, il bredouilla un oui inarticulé. Elvire s'inclina à son tour avec une émotion factice que démentait son accent triomphant. Le banquier s'animait. La vibration claire de cette voix le ressuscitait. Et il eut la force de signer, mais il s'affaissa aussitôt, assommé. Et ce fut tellement malpropre qu'un des témoins de la noce et de la mariée, le chroniqueur Pierre Laurence, s'écria moqueusement en se tamponnant le nez avec un mouchoir. « D'honneur, on dirait la Vierge à la chaise, recommencée par quelques rapins naturalistes. » La Vierge à la chaise. Oh, le mot courut le lendemain du mariage dans toutes les gazettes. La Vierge à la chaise n'était pas belle, mais, selon la délicate expression d'un conteur du XVIIIe siècle, on eût bien voulu lui ressembler. Ni la laideur qui attire et fouette les sens blasés comme un ragoût saupoudré de poivre rouge, ni la beauté qui extasie, qui laisse au cœur du désir et du rêve. Non, un charme étrange, changeant comme la mer, inoubliable. Dans les contours de son corps se retrouvait l'expression hallucinante de la statue d'Hermaphrodite. Elle avait le profil judaïque, un grand diable de nez busqué comme le bec d'un épervier, des yeux verts, striés de paillettes d'or, sans trêve brûlée d'une flambaison de fièvre. Et de cette figure, on ne gardait que le souvenir détraquant des yeux et de la bouche rouge, mince, palpitante, comme accoutumée à d'inoubliables ivresses. Les débuts d'Elvire avaient été lamentables, misère et compagnie, avec une maman à cabas qui l'accompagnait au Louvre et déroutait les quêteurs d'aventure. Les copies se vendaient 4 sous et ses tableaux ne se vendaient pas. Puis, à fréquenter les cours de Chapelain de Bouguereau, elle apprit l'art d'exportation. La peinture que les neveux de l'oncle Sam courent de dollars et qu'admirent religieusement les honnêtes négociants de la rue des Sentiers aux expositions annuelles. Elle sut broyer de l'alcool crime rose avec la même faculté et facilité que les peintres. Les nudités allégoriques qui s'envolent, poursuivies par des papillons et cueillant des fleurs. Les aurores en baudruche et les psychés en porcelaine devinrent bientôt sa spécialité. Le jury la médailla. La critique du pédant, qui regrette le Baron Gros et Horace Vernet, l'encensèrent, ainsi qu'une déité nouvelle. La signature d'Elvire Grispard fit prime sur le marché. Les commandes se multipliaient. L'artiste se débarrassa de la maman et de son cabas comme d'une loque inutile. Et seule, libre de ses actes, elle planta son chevalet près du parc Monceau dans une petite maison calme et enfouie au fond d'un jardin. Et elle y donna des leçons. Son atelier fut à la mode en 2 mois. Elvire Tripart dut refuser des élèves. Toutes les jolies rastaquouères du quartier se sentaient une irrésistible vocation pour la peinture. Et si la porte de l'atelier n'eût point toujours été close aux hommes pendant les cours, on se serait bien heureusement attardé des heures et des heures à regarder cette tête de Miss rose et blonde et à écouter leur bavardage comme devant une grande cage où tirolirent des oiseaux des îles. L'ordre était formel, même pour les marchands de tableaux. On en jasa, de méchantes histoires traînèrent, des histoires extraordinaires de modèles brusquement lancés, sans qu'on sût qu'aucun amant sérieux, des jeunes filles devenant phtisiques, les unes après les autres, une contagion de vices qui s'étendait en ce moment-là comme une tache d'huile. Certaines curieuses de nouveau hélas, les leçons d'Elvire Tripart, entr'ouvrir la porte de l'atelier et avoir effrontément la vérité. Et cela causa un tel tapage que l'artiste ferma la boutique et partit pour l'Italie. Le banquier Joseph Montagne rencontra Elvira Bordighera. Il s'y chauffait au soleil et sa carcasse usée, marchant quinquard sous une large ombrelle et geignant à chaque pas comme un enfant souffreteux. La maladie le minait. Son intelligence s'éteignait comme une chandelle secouée par un coup de vent farouche, ne parvenait pas à balbutier trois phrases de suite sans d'intolérables efforts. Et malgré ces tortures renaissantes, l'angoisse horrible du gratisme croissant dont on scrute soi-même les progrès, Joseph Montagne regrettait ses maîtresses passées, perdues, aussi bien Rosa Valence que la blonde baronne de Lantilly. La dernière, cet enragé d'amour qu'il avait croqué d'une bouchée comme un sandwich au caviar. Il regrettait la mère Laurent et ses soirées intimes auxquelles, comme le disait un prospectus secret, seront reçus là que des gens d'un âge respectable et d'une honorabilité reconnue. Et le soleil et la mer éternellement bleus, l'enchantement des paysages baignés de lumière ruisselante, l'exaspérait. Elvire Tripart l'ensorcela. Elle lui apportait de l'odeur de Paris dans ses jupes. Montagne connaissait comme tout le monde l'histoire du fameux cours de peinture. L'artiste le tenait comme la lecture, le tentait comme la lecture d'un livre sadique. Et du jour qu'il l'eut entrevu, les yeux cerclés de bistrets, sa bouche trop rouge, il oublia tout le passé. Elvire s'empara de lui, fut son ombre, elle ne le quittait pas, le soignait, le dorlotait comme une sœur de charité. Il s'habitua à la voir, à l'écouter. Elle entra dans son existence. Ils se promenaient ensemble au bord de la mer. Elle joua son rôle à la perfection, le flattant, l'enveloppant, mêlant à des théories bourgeoises d'esthétique et des anecdotes pimentées et des rêves de débauche monstrueuse qui enfiévraient le malade et aiguillonnaient son cœur pourri. Il l'adora. Il n'avait pas de famille, seulement quelques cousins inconnus. La savante lui arracha millions et millions de son immense fortune. Et plus elle s'enrichissait, plus grandissait la maladie effrayante du banquier. Comme feu qu'attise des mains opiniâtres. Le mariage a achevé Joseph Montagne. C'était une question de mois. C'est aujourd'hui une question d'heure. Il ne remue pas toujours couchée, toujours endormie. Elvire Tripart l'abandonne au domestique et l'a reléguée comme un vieux meuble dans une mansarde. Elle compte les minutes. Elle voudrait entendre enfin les pas lourds des croque-morts, croquant sur les marches des escaliers. Et elle rêve d'ouvrir un nouveau cours, un cours gratuit de jeune fille, où elle rassemblera, comme dans un musée secret, les plus beaux, les plus effrontés modèles qui aient encore jamais cambré leur torse nu dans la clarté fausse des verrières.